Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD bimensuel qui prend le soleil. L'émission d'aujourd'hui sera un peu particulière. Je déplore en effet l'absence de Thio, qu'un emploi du temps de ministre a empêché de venir aujourd'hui. Je n'ai toutefois eu aucun mal à le remplacer par des invités de qualité que j'ai rencontrés il y a 15 jours au festival des Calanques et des Bulles qui se tenait à Lumini, non loin de Marseille. Ma présence à ce festival étant totalement improvisée, je n'ai malheureusement pas eu le temps de préparer les interviews. Je m'excuse donc par avance si celle-ci vous semble confuse, semble aller dans n'importe quel sens. Sachez enfin que ce genre d'initiative sera réitéré à de nombreuses reprises. J'ai pris quelques contacts pour les émissions futures, car le 1A Club, ce n'est pas seulement l'émission de 1A Pied et de Thio, c'est aussi l'émission de tous les passionnés de BD, et donc nous essaierons autant que possible d'accueillir des passionnés, qu'ils soient auteurs, libraires, acteurs dans le monde de la bande dessinée, ou tout simplement des lecteurs. Sur ce, je vais donc vous laisser avec une interview de Pierre, qui a chapeauté l'organisation du Festival des Calanques et des Bulles, suivi par une interview de Fabrice Tarin, connu pour avoir travaillé sur la bande dessinée Le Tombeau des Champignacs, une aventure de Spirou et Fantasio, qu'il a faite avec Yann, et plus récemment par le journal Intime d'un Lémurien, qui sort chez Shampoing, et Maquis, sorti chez Dupuis. À tout à l'heure. Je suis au festival des Calanques et des Bulles avec Pierre qui organise cette année le festival dans l'école Euromed Management, dans le joli cadre de Lumini. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Donc je le dis, hein, on recommence parce que bien sûr, comme d'habitude, j'ai oublié d'appuyer deux fois sur le bouton enregistrer parce qu'une seule ne suffit pas. On passe pourquoi.
Tout va bien. Mieux vaut deux fois qu'une, hein, je me fais pas interviewer tous les jours.
D'accord, donc c'est toi qui gères la totalité de l'organisation cette année. C'est la première année que tu gères. Comment est-ce que ça se passe vis-à-vis de l'école, ce projet, au niveau de l'organisation ?
À proprement parler, c'est la première année que je gère, vu que cette année j'ai la responsabilité du festival en tant que poste de chef de projet. Mais pour accéder à un tel poste, il faut avoir ou chef de projet ou chef de pôle com, etc. Il faut avoir été formé pendant un an avant par des personnes des deuxièmes années qui auront été à leur tour chef de pôle ou chef de projet. Le flambeau est passé en fait. Donc ça fait 2 ans que le festival on travaille dessus. Et cette année, on est au poste à responsabilité. Concrètement, c'est comme ça que ça se passe.
D'accord. Alors, c'est un festival de BD, donc milieu artistique, etc. C'est une école de management qui le gère. C'est un projet à l'intérieur de l'école. On s'attend pas forcément à voir un mélange entre l'école de management et le milieu artistique. C'est des choses qui semblent totalement n'ayant rien à voir, quoi. On s'attend à voir un management, c'est quelque chose qui est en général assez carré. Les auteurs de BD sont tendance à être plutôt chaotiques. Comment est-ce que ça se gère, ce mélange de deux façons de travailler différentes ?
Alors d'abord, je vais éclaircir un point, ce n'est pas l'école qui le gère. Ce n'est pas l'école. En fait, c'est une association, loi de 1901, tout ce qui est de plus autonome, affiliée à l'école, donc c'est-à-dire que l'école nous aide dans le sens où elle nous prête un local. Et cette association gère ce festival, donc le festival des Calanques et des Bulles. Elle gère également un festival qui s'appelle le festival Étendard, qui est un festival pluriculturel qui se passe à la Friche. C'est fantastique, sur 3 jours du cinéma, de la danse et du théâtre. Et également un festival qui s'appelle Sons of Marseille, qui est de la musique éclectique. On a accueilli notamment les United Fools il y a une semaine sur un concert au cabaret aléatoire qui a vraiment envoyé du lourd. Donc voilà, donc effectivement, l'école nous aide en nous octroyant ses locaux. Ses locaux. Donc car le projet fait partie en fait de la pédagogie de l'école. L'école veut en fait que les étudiants mènent des projets qui s'appellent des projets actions afin de se familiariser avec des politiques de communication, de logistique, de partenariat pour se créer de la matière grise au vu de l'ascension vers un stage, un emploi, etc. Donc l'école nous soutient à ce niveau-là. Par contre, l'organisation du festival est entièrement dans les mains des 17 personnes qui le gèrent. L'école n'a pas son mot à dire et c'est vraiment ça qui en fait justement une pédagogie intéressante et attrayante.
Oui, donc tu dis que c'est des projets qui sont faits. Enfin, chaque membre de l'école, chaque élève doit mener donc un projet dans l'année.
Oui, alors chaque membre de l'école doit mener un projet ou être membre de l'organisation de ce projet.
D'accord. Et donc là, c'est un regroupement plus de ceux qui sont tournés vers la BD, je suppose. Est-ce qu'il y a principalement des fans de BD ou est-ce qu'il y a des gens qui se lancent dans ce projet-là et qui s'intéressent à la BD par ce biais ?
Des Calanques et des Bulles, ça fonctionne depuis 12 ans et ça a toujours eu l'image d'un festival familial sympathique et très très fun à organiser, que ce soit au niveau de la communication. Il y a plein de choses à développer. On a déliré là il y a 2 semaines. On s'est déguisé en schtroumpf et puis on est allé flyer sur le Vieux-Port pour faire de la com sur le festival. Enfin, il y a plein de petites conneries qu'on développe comme ça, ou alors des choses plus sérieuses, que ce soit au niveau de l'affichage, des contacts presse. Et en logistique, un festival BD, c'est énorme à organiser, c'est juste énorme, parce que on crée une sorte de sens de visite, on positionne des stands à tel ou tel endroit. C'est énorme à organiser. Donc le festival est très attrayant à ce niveau-là parce qu'il est solide et parce qu'il est juste fantastique, parce que chaque année on essaie de changer un petit peu la programmation d'auteur. L'année dernière on avait Serge Carrère en parrain, cette année on a Boulet. Je veux dire, en même temps d'être un festival qui garde la même identité et le même intérêt, c'est un festival qui évolue en fonction de la programmation de ses auteurs. L'intérêt principal aussi, c'est de faire un festival pour les auteurs. On fait un festival pour les auteurs, c'est-à-dire qu'on veut qu'ils se sentent bien et on veut rapprocher les liens entre équipe et auteurs. L'année dernière, on a fait une soirée avec les auteurs, c'était complètement fou, quoi. C'était génial. Donc ça aussi, c'est très très fun à ce niveau-là. Après, évidemment, le côté fun et le côté intéressant à organiser, il y a aussi le côté BD, car c'est pas le seul projet qui est organisé à Euromed. Il y en a environ une trentaine qui peuvent être au niveau sportif, comme au niveau cinéma, comme au niveau entrepreneurial, solidaire, humanitaire. Donc effectivement, ça rassemble davantage de fans de BD que dans les autres projets. Il doit y avoir, sur 17 personnes, il doit y avoir environ 8 personnes qui sont vraiment calées BD, quoi.
Et tu fais partie de ces 8 personnes calées BD ?
Alors moi, je suis du moite-moite. Moi, en fait, je suis bon. Déjà, le festival m'a tout de suite passionné. Donc moi, l'organisation, j'ai tout de suite sauté dessus. Et je suis quelqu'un qui a grandi avec la BD, mais plus la BD classique, à la Gaston, à la Joe Bartim et compagnie. Ça m'a suivi dans mon enfance. Je suis très BD. Je suis pas mal manga aussi. On pourra en parler si vous voulez. Mais de là à dire que je suis un grand spécialiste qui écume tous les salons de France, c'est pas le cas. Par contre, la BD, oui, je suis très touché par cet art, effectivement. En particulier celui de Boulet.
Oui, qui a un blog quand même assez exceptionnel. Et tes coups de cœur du moment en BD, des trucs récents, n'importe quel type, hein, que ce soit manga, comics, BD européenne, il y a des choses qui t'ont vraiment marqué ces derniers temps ?
Alors, des choses qui m'ont marqué, en fait, on va commencer par Boulet. Parce qu'en fait, Boulet, moi je l'ai découvert avec quand j'étais ado, en quelque sorte avec le Cho Magazine, effectivement, la rubrique scientifique et compagnie. Puis je suis tombé sur du Ragnarok. Alors j'ai trouvé ça très très marrant comme BD, l'humour je le trouvais excellent. Mais par contre, je connaissais pas son blog. Moi, Boulet, je le connaissais comme auteur de BD. C'est un auteur qui a deux côtés, effectivement. Il a un blog qui est vachement développé, mais il y a également des séries BD qui fonctionnent bien. Moi, je l'avais découvert avec les séries BD. J'ai apprécié son blog cette année. Je l'ai découvert à partir du moment où on a commencé à faire des prospectives au niveau parrain. On s'est mis à découvrir son travail au niveau blog. Enfin, je me suis mis parce que des membres de mon équipe étaient déjà passionnés. Et j'ai appris à découvrir les notes de Boulet. Alors, je trouve ça génial parce que c'est génial dans le sens où c'est touchant. C'est plein d'humour et en plus c'est dessiné avec un style graphique qui est différent de page en page. Donc ça c'est vraiment super intéressant, donc j'ai beaucoup aimé ça. Bon, si on peut faire un saut vers le manga, à ma grande honte je me suis mis très tard à One Piece, donc maintenant je suis très dans One Piece et j'adore ça. D'ailleurs il paraît que Boulet est passionné de One Piece aussi, hein. On a eu une grande discussion avec Boulet au restaurant du vendredi soir sur One Piece. C'est vite parti à la geek discussion, c'était assez rigolo. Et donc voilà, au niveau BD en ce moment, ce qui m'a marqué ces derniers temps, c'est vraiment ça. Après, moi je suis un grand passionné également des séries de Léo, que ce soit Aldébaran ou Betelgeuse, ça j'aime beaucoup. Et je suis un petit peu moins BD fantasy. J'aime un petit peu moins. Moi, je préfère la BD qui touche, la BD qui, comme par exemple du Larsenet, la BD qui fait réfléchir.
pas n'importe quel Larsonnet, alors. Plus ce qui sort chez les rêveurs que ce qui sortait chez Fuite Glaciale.
Effectivement, plus ce Larsonnet-là, oui.
Merci. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Tu voudrais rajouter quelque chose, dire comme ce festival est super bien, ou je ne sais quoi.
Moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est un festival qui a vraiment une identité propre. On essaie de privilégier la qualité de vie des auteurs et les rapprocher de l'équipe. Et naturellement, ça se ressent sur le public. Les auteurs sont plus disponibles, sont plus sympas. Et là, il y a une ambiance juste folle sur le festival qu'on a réussi à créer vendredi soir. Il y a une alchimie qui s'est créée au resto, un bon délire. C'était pas prévu, ça part comme ça ou ça ne part pas. Et d'année en année, le festival fonctionne et séduit des auteurs vraiment différents. Boulet est pas quelqu'un de compliqué concrètement, mais un auteur peut-être un petit peu plus pointu comme Bob de Groot a été vraiment séduit par le festival et veut revenir. Donc ça, c'est notre grande fierté, c'est réussir à brasser différents styles de BD et à satisfaire les auteurs à partir d'une organisation qui est, il faut le dire, amateur et étudiante. Donc on arrive quand même à avoir un résultat intéressant. Et moi, j'encourage, donc cette édition, c'est sûrement trop tard, mais j'encourage donc tous ceux qui écouteront ce podcast à faire un tour à Lumini, parce que ça vaut vraiment le coup, vous ferez des rencontres. Au niveau associatif, il y a beaucoup d'associations de BD, donc ça fait des rencontres très intéressantes, mais aussi au niveau auteur. Donc n'hésitez pas, ça sera mon dernier mot, voilà.
Je viens d'avoir une dernière idée de question.
Ça sera pas mon dernier mot.
Est-ce que vous comptez essayer de vous ouvrir à l'international? Alors là, bon, il y a des auteurs belges, hein, de Grotte, il me semble qu'il est belge. Est-ce que vous comptez vous ouvrir à l'international vers des auteurs, justement, je dirais, des auteurs japonais, anglais, américains, sachant que c'est à chaque fois une nouvelle personne qui porte le projet. Est-ce que c'est pas un peu compliqué d'avoir des perspectives d'évolution pour aller plus loin et de faire autre chose?
C'est une bonne question. C'est vrai qu'une fois que le flambeau est passé, il faut faire les contacts partenaires. Effectivement, on présente la personne qui nous remplace à tous les partenaires, les assos et compagnie. Mais c'est vrai que, par exemple, moi j'ai le sentiment que si je restais là l'année dernière, il y aurait une foule de choses que j'arrangerais, des choses que je ferais plus tôt, parce qu'il y a des choses que j'ai fait trop tard. Donc voilà, c'est comme ça que je le vois. Après, l'international, bon, le Japon, vous payez le billet? Non? Bon.
Non, ça va.
Bon, le Japon, on va laisser de côté pour l'instant. Par contre, le festival a pour fierté de rester tel qu'il est, c'est-à-dire familial. Et donc, ça nous gêne pas forcément qu'on ne se lance pas dans des perspectives d'évolution internationale. On a des auteurs belges, on a eu Morales l'année dernière, on a De Grotte cette année. C'est déjà pas mal à niveau. On arrive à séduire des auteurs quand même sympathiques. À voir plus tard. Pour l'instant, ça fonctionne tel qu'on est, on en est très content. Effectivement, il y a une grande part d'auteurs locaux. Je pense que ça, on va faire un petit biais, une petite parenthèse là-dessus. C'est que le festival a pour but de faire fonctionner, en gros, la BD locale, de communiquer sur la BD locale, que ce soit via les auteurs locaux, donc notamment les auteurs du Zarm Atelier, mais également les associations marseillaises, donc les fanzines, ou alors des petites maisons d'édition qui débutent. On a notamment un stand de l'édition Même Pas Mal, qui est là, qui produit Chat notamment. Donc voilà, on a pour but de faire la promotion de ce type d'association au niveau local. Pour convaincre d'autres auteurs, ça marche par soit les contacts des maisons d'édition, soit tout simplement un auteur qui a entendu parler du festival. C'est souvent ce cas-là, hein, du bouche à oreille. Le festival a plu à quelqu'un d'autre, il en parle à un auteur. La personne est convaincue, elle est invitée, donc elle vient. C'est un peu comme ça que ça se passe. C'est un travail de longue haleine. Donc Boulet, tout simplement, une des personnes de l'organisation l'avait déjà rencontré à des festivals et on lui a envoyé un jour un mail en lui demandant s'il voulait faire partie de l'organisation du festival et il a accepté. Voilà. C'est aussi bête que ça, que c'est quelqu'un de vraiment sympa, de vraiment simple et d'abordable, même si c'est quelqu'un de très connu et de très médiatisé, c'est quelqu'un qui reste simple, qui reste voilà, abordable.
Être à Marseille, ça aide ?
Effectivement, être à Marseille, ça aide. le cadre des Calanques et des Bulles se passe dans les Calanques, donc c'est même pas à Marseille, c'est à Lumini, en périphérie de Marseille. On est dans un cadre super sympa. On n'a pas trop de chance, il fait pas très beau, mais bon, ça reste quand même sympa. On est dans un milieu boisé. On fait visiter aux auteurs les Calanques. Là, il y en a 5 ou 6 qui sont dans les Calanques en ce moment même. J'espère qu'ils triment pas mal. Et voilà, je suis prêt à parier que la moitié de ceux qui voulaient descendre jusqu'à l'eau n'y sont pas allés. Après, on va voir. Enfin bref, donc voilà, ça aide parce qu'effectivement, ça permet aux auteurs de faire une visite de la ville et de voyager.
Oui, j'avais eu un peu la même problématique à BD à Bastia, où les auteurs se font pas trop prier pour venir en général.
Ça peut se comprendre, effectivement. Bastia, c'est sympa.
Oui, le festival est bien aussi. Un peu une approche très différente. Ok, bah merci beaucoup Pierre, et puis bah à bientôt, on va se recroiser je pense, tu risques de courir un peu partout dans la journée.
C'est ça, je cours beaucoup, oui, je sais pas combien de kilos j'ai perdu depuis 2 semaines, mais effectivement, je vais beaucoup dormir ce soir par contre.
À bientôt. Donc je suis toujours à décalanquer des bulles, et je suis sur la terrasse avec un très très beau soleil, avec Fabrice Tarin, auteur de bande dessinée assez connue quand même. Pour avoir retravaillé sur Spirou dans le tombeau des Champignac il y a quelque temps maintenant, pour avoir sorti le journal d'un lémurien, est-ce que j'oublie des trucs ?
La continuité dans le journal de Spirou, en fait, c'est le lémurien version autofiction. Donc c'est toujours avec des personnages animaliers aux éditions Dupuis. J'ai deux séries actuellement avec le lémurien, celle de autobiographique pour la collection Shampoing avec Lewis Trondheim comme directeur de collection et de l'autofiction, donc c'est les mêmes personnages mais avec plus de champ libre pour inventer des histoires en fait qui seraient pas réelles mais d'inspiration réaliste sur des anecdotes. C'est-à-dire, j'aime bien en fait me servir d'une anecdote de mon enfance ou de mon adolescence pour ensuite broder autour et imaginer des choses qui se sont pas passées quoi. Ça permet de crédibiliser un peu le récit.
D'accord. Alors moi, je t'ai découvert principalement sur tous les fakes que tu as pu faire. T'aimes apparemment beaucoup, t'as pas mal fait, repris des dessins d'auteurs, copié des styles. C'est quelque chose qui t'amuse de refaire à la façon d'eux ?
Oui, c'est une sorte d'exercice de style, mais c'était surtout avec Fred Nedart parce qu'on aimait bien faire des impostures et des blagues. Et à l'origine, je crois que ça a débuté dans des festivals de bande dessinée où quand on débute en bande dessinée, bon, des fois on se retrouve seul à sa table avec personne, donc il faut s'occuper. Donc c'était plus facile de faire genre en ESAP et de dédicacer des faux Titeuf, parce que là on était sûr d'avoir du monde, parce que sinon les premiers albums, là j'ai vu aussi sur d'autres auteurs qui sont dans le festival, bah c'est dur d'être tout seul à sa table, d'attendre péniblement qu'il y ait quelqu'un qui vienne, et alors qu'à côté il y a des files d'attente énormes pour les auteurs. Donc c'est vrai que c'est un peu inégal, et c'était pour pas s'ennuyer. Mais c'est vrai que c'est un bon exercice de copier des styles. Donc voilà, c'était à moitié un exercice, à moitié un passe-temps pour passer le temps, et à moitié et donc un tiers pour le plaisir de la blague en fait.
D'accord. Ouais, je sais que les pauvres auteurs abandonnés. Je m'étais retrouvé une année à un festival où il y avait Mourier.
Oui.
Et il y avait Isa. Je ne sais pas si tu connais Isa comme.
Bien sûr. Et j'imagine que Isa devait attendre toute seule à sa table.
Voilà, et donc bah, dans ce cas-là, bah, je ne suis pas allé chercher des dédicaces de Mourier, je suis allé voir Isa, j'ai trouvé ça plus agréable, et puis en plus j'avais le temps de parler.
Oui, bah, c'est l'avantage, et puis peut-être qu'un jour, elle-même aura des fils. Et... Mais c'est vrai que oui, voilà, il y a des auteurs plus populaires que d'autres, donc ça se ressent, et c'est d'autant plus cruel au moment des dédicaces, quoi.
Oui. Bon, le truc qu'elle fait le plus parler, c'est... La reprise de Spirou que tu as fait, c'était un Spirou par, qui est quand même, enfin, Spirou, c'est quelque chose qui était un peu inattendu, ou ça arrivait, enfin, c'est le genre de truc, faire un Spirou, on s'y attend pas forcément quand on est auteur.
Bah, surtout à l'époque, parce que c'est la toute première fois où on me proposait de faire un Spirou et Fantasio, donc j'imagine que c'était suite au dessin de Violine, parce qu'il était très voisin de celui de Franquin, enfin en tout cas dans la même école. Mais sinon, donc je l'ai abordé comme un Spirou traditionnel et pas comme un Spirou décalé, comme il a pu se faire dans la collection parallèle des Spirou, où on demande surtout à des auteurs de personnaliser le personnage sans se soucier d'une continuité graphique ou scénaristique de la série principale. Et voilà, donc oui, c'était inattendu, et du coup, bah, j'ai saisi j'étais obligé de dire oui, quoi. C'était vraiment un truc chouette à faire, mais c'était très pénible pour moi. J'ai mis 2 ans et demi pour le terminer, et c'était, je sais pas, il y avait une sorte de pression où j'étais un peu inhibé au niveau du dessin et j'arrivais pas à me lâcher vraiment, et du coup ça a pris du temps. Et après je me suis rendu compte que sur les autres auteurs qui ont participé à la même série, Ça a été le cas parce que Franck Le Gall, il pensait le faire rapidement, il a mis 2 ans. Ensuite, Fabrice Parme, pareil, il a mis 3 ans. Donc c'est vraiment énorme. Le Spirou dessiné par Olivier Schwartz aussi, il a mis 2 ans et demi, 3 ans. Donc en gros, je pense que quand on a ce personnage-là, au début on est tout content, et après il y a une sorte de pression qui s'installe et qui à moitié de paralysie, et puis d'envie de trop bien faire, et du coup ça inhibe un petit peu, je pense.
Oui, c'est le fait de passer derrière, enfin travailler sur un personnage mythique, passer derrière, je pense principalement à Franquin, je pense que c'est la référence que tout le monde doit avoir. Même si perso j'ai beaucoup aimé moi Fournier, Tom et Jean-Ry, c'est vrai que ça doit pas être évident de passer derrière, ça doit mettre pas mal de pression.
Oui, voilà, mais donc ça a été valable pour tous les auteurs qui l'ont fait, sauf pour Émile Bravo qui a fait un coup de génie en faisant son Spirou. Mais là, ça repose essentiellement sur des qualités de scénario qui du coup font que ça souffre d'aucune concurrence avec les meilleurs Franquin, quoi.
Donc, dans le 1A Club, notre objectif, c'est un peu de parler des BD qu'on aime, de ce qu'on lit. C'est quoi ton dernier coup de cœur en bande dessinée, la dernière BD sur laquelle tu es resté sur le cul, qui t'a vraiment bien plu?
C'est plus un auteur, en fait, c'est plus Riyad Satouf, donc c'est toute son œuvre. Donc là, ça m'a foutu une claque. Au niveau humour, c'était vraiment tout ce que j'aime, et c'était novateur, c'était réaliste. Enfin, la différence des bandes dessinées humoristiques, c'est que là, ces personnages, ils les rendent très crédibles, même quand ils partent complètement dans de la fiction, comme Pascal Brutal. Sociologiquement parlant, il va très très loin, et il arrive à crédibiliser ces personnages justement dans les rapports humains entre eux, sur les rapports psychologiques entre les personnages. Et du coup, donc ça, c'est mon coup de cœur. Ensuite, des fois, il y a des auteurs qu'on redécouvre, qu'on a un peu ignoré plus jeune. Par exemple, dernièrement, en fait, j'ai lu le journal, non, je sais plus comment ça s'appelle, Le Souvenir d'un jeune homme de Lozier. Et j'ai trouvé ça fabuleux, quoi. Et pareil, un petit peu dans cette même veine que Riyad Satouf, au niveau des rapports psychologiques entre les personnages, c'était très bien vu, c'était ultra réaliste. Et je sais pas, donc là en ce moment, je m'intéresse vraiment à la BD réaliste, pas au niveau du dessin, mais au niveau du contenu. Et voilà.
Oui, c'est-à-dire passer sur autre chose que l'humoristique, qui est un peu ce que toi tu fais, parce que tu fais principalement de la BD humoristique, tu n'as pas de projet plus sérieux.
Sérieux, si j'ai un projet un peu plus sérieux, enfin peut-être moins drôle, mais jusqu'à présent, c'était l'humour qui était mon moteur, en fait. C'était amusant de, enfin c'est ça qui me motivait pour faire de la bande dessinée.
D'accord. Tes influences en BD, qu'est-ce que c'est la bande dessinée que tu mettrais dans ton panthéon, la bande dessinée quand tu la regardes, tu dis un jour j'aimerais pouvoir être aussi bon, faire aussi bien.
Alors, au début, ouais, je pense que quand on est jeune, on se dit j'aimerais pouvoir être aussi bon, faire aussi bien, et plus le temps passe, plus moi j'ai envie de copier ce qui a été fait et de trouver quelque chose de plus personnel. De toute façon, mes références ultimes, ma base, c'était la culture Walt Disney, Peyot, Franquin. Donc l'auteur qui m'a le plus bluffé, c'est Franquin. Et dans ce registre-là, c'est les premières années de dessin de Conrad. Il était vraiment dans l'ombre du maître, mais il arrivait encore à aller plus loin en poussant le dessin vers plus de réalisme. Voilà. Donc Conrad et Franquin, c'est mes références de base. Et maintenant, je m'oriente davantage. Enfin, je me concentre davantage sur le scénario, en fait. Je fais davantage de la bande dessinée pour l'histoire et moins pour le dessin. Et du coup, je pense que ça influe sur le dessin qui s'éloigne davantage de mes références franquiniennes, en fait.
D'accord. Il y a des BD que tu lis en ayant presque honte de les lire, des plaisirs un peu honteux, le truc que tu lis tranquillement sans te prendre la tête, que t'aimes bien suivre et que bon, ce qui forcément n'est pas si génial que ça, enfin qu'on peut pas mettre au panthéon des grands auteurs de la BD.
Bon, au début j'avais pensé à Penelope Joliker et, bah, et après c'est pas sympa si je dis ça, c'est pas honteux, c'est plus de la BD féminine. Mais non, enfin elle a fait des beaux bouquins. Je sais pas ce qui serait honteux, c'est les blogs qui ont pas grand intérêt mais qu'on lit quand même. Mais je peux pas balancer des noms parce que c'est pas très simple.
Ouais, ouais. Oui, non, quand je disais honteux, c'est je sais pas la BD.
La BD de Gare.
La BD, non, on n'est pas forcément la cible. Tu disais Penelope Joliker, effectivement, c'est des trucs qui ont plus peut-être un public féminin comme cible. Le truc, on s'attendrait pas forcément à voir. Moi, je sais qu'il y a quelques bouquins. Je m'achète quelques comics que je lis plus par habitude qu'autre chose. Voilà, c'était pour avoir ce genre de truc-là, en fait.
Du coup, non, pas trop de BD honteuse. Ouais, c'est pas trop. Enfin, je suis pas grand consommateur de bande dessinée, donc du coup, j'ai pas d'addiction, donc j'ai très peu l'occasion de lire des BD honteuses. Si, peut-être dans le journal de Spirou, comme je travaille pour le journal de Spirou, je lis un petit peu tout, donc je pense que ça m'arrive de lire beaucoup de choses qui sont pas super qualitatives, mais là pareil, je peux pas citer de nom.
Ouais, c'est difficile, on va pas tracher.
Non, j'ai souvent eu l'habitude de citer des noms et puis après ça me retourne dessus parce que donc voilà, je me mouille pas trop, mais voilà.
Oui, non, je sais que j'ai ce problème. Il y a certains auteurs dont je pourrais dire du mal, même si j'aime aussi ce qu'ils font. C'est toujours difficile. Bon, j'ai craché un nom dans le genre, par exemple. Je sais que je regrette grandement que Mourier ait arrêté La Couleur Directe. Sur lequel je le trouvais exceptionnel, et sur les trolls ça reste très honorable, mais quand on a vu ce qu'il a fait en Couleur Directe, bah c'est un peu décevant.
Mais là c'est plutôt un compliment, enfin, même quand même il entendrait ça, ce serait plus un compliment que qu'une critique qui assassine.
Tu regardes un peu au-delà de ce qui se fait, je dirais, en BD européenne, au niveau des comics, des mangas. Enfin, je pense aux auteurs peut-être anglais, américains, japonais, coréens, etc. Ou est-ce que tu es vraiment concentré sur ce qui se fait en Europe et on va dire aller Amérique du Sud, parce que c'est un peu le même style?
Si, certains grands classiques, mais sinon, je suis pas un grand lecteur de bande dessinée, donc non. C'est, de temps en temps, il y a des amis qui me conseillent des bouquins comme... comment il s'appelle celui qui est hyper connu là, Quartier Lointain, donc forcément je vais lire et apprécier, mais voilà, j'essaye de mourir à certaines choses, mais je m'y connais quand même très peu, quoi.
On va revenir un peu sur ce que tu fais. C'est vrai que j'avais découvert tes violines que j'avais beaucoup aimées dans Spirou, je les ai lues.
Des lectures honteuses ?
Non, pas du tout. Franchement, Violine, ça faisait partie de ces BD dans Spirou que je trouvais qui avait un peu plus d'envergure. C'était un peu comme quand on voyait Soda dans Spirou, au moment où il se posait la question de le laisser ou pas. Violine, ça me donnait cette impression-là d'avoir une BD qui était tout public, mais un petit peu plus adulte que d'autres au niveau des thématiques.
Parce que maintenant, ce serait différent avec ce qui se publie dans Spirou comme... Les Nombrils ou comme Alexia ou enfin peut-être que maintenant ça paraîtrait moins décalé, Violine. Peut-être qu'à l'époque oui, le journal était plus gentil, quoi.
D'accord. Il y a des suites de prévues pour Violine ou c'est un projet qui est tombé?
J'ai arrêté à partir du tome 3 et j'ai laissé la place à un autre dessinateur, Jean-Marc Krings, parce que voilà, en milieu d'album, enfin ce qu'il y a c'est que en cours d'album numéro 3, on eut des grosses divergences de scénario avec Didier Tronchet. Et du coup, on n'envisageait plus du tout la série sous le même angle, parce que jusqu'à présent, j'avais participé aussi au scénario sur les deux premiers. Et du coup, je me voyais très mal continuer à travailler un an sur parce que en plus de ça, ça me prenait un peu plus d'un an pour faire un violine. Donc travailler au dessin sur un scénario dont on n'est pas convaincu, ça le fait pas. Et du coup, on s'embrouillait par rapport à ça parce que à la base, il me disait bon, si ça te plaît pas, tu changes et tu adaptes à ta façon. Et le problème, c'est que lui-même, ça lui plaisait pas ce que j'avais fait, donc on a été obligé d'arrêter la collaboration et 2 années plus tard, en la personne de Jean-Marc Rings, on a trouvé quelqu'un qui avait la possibilité de reprendre le dessin dans le même registre graphique. Et du coup, la série a continué mais par contre, les ventes ont vraiment décliné, quoi. Alors, c'est peut-être lié à une trop longue interruption. Et du coup, le tome 3, il s'est beaucoup moins bien vendu. Et puis, le tome 4, c'était une catastrophe. Et le tome 5, pas du tout. Donc, l'éditeur a voulu arrêter la série. Ça, c'est faute de lecteur, quoi. Faute de vente. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de suite.
Ça fait quoi d'avoir son personnage qu'on a dessiné en couverture de Spirou avec cet œil violet qui était assez impressionnant? Ça doit faire plaisir, non? T'avais eu une couverture, hein, il me semble, de Spirou avec avec violine en gros.
Ah oui, en gros plan, ouais, c'était ma première couverture. C'est un rêve de gamin. Quand on lit Spirou, on se dit que le but à atteindre, c'est de publier dedans et puis de faire la couverture. C'est impressionnant parce que c'est un peu comme la première bande dessinée qu'on sort, qui est imprimée, etc. Souvent, on a tendance d'ailleurs à vouloir aller vers ce but-là sans vraiment se poser la question si c'est qualitatif ou pas, quoi. Parce que la priorité, c'est de publier. D'accord. Et c'est vrai que c'est peut-être un piège pour les débutants, c'est qu'ils veulent absolument, comme moi, on veut absolument publier vite. Et puis avec du recul, on se rend compte qu'on aurait peut-être pu attendre un peu plus, ça aurait été pas plus mal, on aurait peut-être évité de faire des choses trop pas assez professionnelles, quoi.
Tes projets en BD, continuer dans la collection, j'ai oublié le nom de la collection de... Oui, donc continuer chez Shampoing et en parallèle la série chez Dupuis, d'autres projets qui vont, où tu sortirais de ton Lémurien pour aller vers ailleurs?
Pour l'instant, donc non, juste le Lémurien. Donc j'entame le troisième tome de Maki dans le journal de Spirou qui est prépublié. Et le 5 mai sortira Charlotte Gainsbourg, Mon amour. C'est la suite du journal du Lémurien, mais où je plonge dans des souvenirs d'enfance et d'adolescence. Et donc là, c'est autobiographique.
T'as une forte présence sur Internet avec ton blog, ton site, où tu es un peu parti des blogs un peu de référence quand on commence à chercher sur les blogs bande dessinée. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire toutes ces publications? C'est un exercice pour continuer à dessiner au quotidien, continuer entre deux albums à montrer qu'on sort des choses, où il n'y a aucune ambition, c'est juste pour jeter les choses comme ça sur le papier et faire profiter de ton travail au quotidien?
Au début, c'était un instrument pour sortir de mon dessin franco-belge traditionnel et dessiner plus vite, parce que le défi du blog, c'est justement de mettre à jour rapidement, donc de devoir dessiner rapidement. Et en fin de compte, à partir de là, ça m'a ouvert à un nouveau lectorat qui n'était pas spécialement branché bande dessinée, mais qui venait, le lectorat blog. Et donc voilà, c'est une sorte de diversité. Ça s'est fait naturellement, mais après, bon, j'ai pas forcément toujours du matériel pour mettre à jour mon blog. Mais d'autant que, à l'inverse de certains auteurs comme Laurel, par exemple, j'ai pas. C'est plus un espace de prépublication que de la création pure, quoi, qu'on retrouvera pas en livre. Donc je pense que, pour être honnête, c'est davantage un espace publicitaire où je me dis que ça peut très bien faire connaître mes bandes dessinées à d'autres personnes qui sont pas amenées à lire le journal de Spirou et tout ça. En même temps, c'est quand même intéressant parce qu'il y a des retours de lecteurs et dans les commentaires, on sait, on a des réactions à chaud ça permet de savoir si on a réussi son coup ou pas, quoi. Quand on veut faire rire ou quand un dessin de couverture plaît ou non. Enfin, je m'amuse des fois à faire à demander l'avis au lecteur, savoir quelle couverture il préfère. Et du coup, on peut même changer de fusil d'épaule en fonction des réactions, quoi.
Et c'est pas trop dur d'avoir, hein, parce que l'anonymat sur le net permet aux gens de dire clairement ce qu'ils pensent, parfois en étant un petit peu outrancier. C'est pas un peu difficile, j'imagine. Enfin, quand on dessine, on a tendance à vouloir qu'on dise du bien et d'avoir des gens qui parfois trashent, hein, directement sur les commentaires pour le plaisir de trasher. C'est pas quelque chose dur à encaisser. Je vois l'Arsenal, lui, il a eu beaucoup de mal à supporter ça. D'ailleurs, il a coupé les commentaires sur son blog. T'as pas des fois des envies de couper ça et de te fermer un peu?
Bah non, parce qu'en fait c'est bien de relativiser, et puis des fois, enfin, même les critiques négatives sont importantes, donc c'est pas forcément gratuit, donc à nous de faire la part des choses entre ce qui est gratuit et ce qui ne l'est pas. Et et puis c'est surtout que, vu que ça concerne tout le monde, ça permet vraiment de relativiser. C'est que c'est pas ça sera pas ciblé contre moi. Là, justement, tu citais l'exemple de Larsonnet, bah donc voilà, enfin, ou de Laurel ou de n'importe qui, ils auront de toute façon toujours leur détracteur. Et du coup, quand on a les siens, on sait que ça fait partie du média qui est comme ça, et c'est et voilà, et on aura toujours nos détracteurs ou nos trolls qui sont juste là pour foutre le bordel, ou je sais pas, mais du coup, ça évite de prendre tout pour argent comptant et de relativiser, ouais. Parce que, enfin, je vois pas qui peut échapper à ce truc-là, quoi.
Ok, ben merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un petit quelque chose pour finir, parler de l'ambiance de ce festival, de ce beau soleil qu'on a aujourd'hui, ou autre chose pour clore cette interview?
Non, mais c'était bien agréable. J'encourage tous les dessinateurs à profiter du lieu dans lequel ils sont invités, parce que c'est vrai que généralement, quand on est dans des festivals comme ça, on passe de la cafétéria au fin du restaurant aux séances de dédicaces, et on profite pas forcément du paysage et du décor. Et là, bah, hier, moi j'ai tenu à faire la visite des Calanques, et c'était vachement bien. Donc le matin, avec ma copine, on est parti randonnée pendant 4 heures enfin, dans les Calanques, et voilà.
T'as réussi à aller jusqu'à l'eau?
Oui, bien sûr. C'est pas baigné, mais il faisait pas aussi chaud qu'aujourd'hui, quoi.
Ok, bah merci beaucoup, à bientôt. On retrouvera l'adresse de ton blog sur le site du podcast.
Il faudra couper celui-là. Parce que...
De quoi?
Je dis, il dure longtemps, il faudra le couper.
Ouais, ça dure longtemps en général, c'est un des reproches qu'on a. Merci beaucoup, à bientôt. Et voilà, c'en est fini de cette émission. J'espère que le principe des interviews vous aura plu. Nous tâcherons, quoi qu'il en soit, d'avoir d'autres invités dans les émissions à venir. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour une émission plus normale, qui aura une petite journée de retard en théorie. Thio a toujours un emploi du temps de ministre, il est très très difficile à joindre. Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'émission, savoir ce qu'on fait, où on en est, vous pouvez bien sûr aller sur le blog blog.jeudepied.org, devenir fan de notre page Facebook, facebook.com/oneaclub en un seul mot. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, twitter.com/oneaclub, toujours en un seul mot. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur le blog ou sur iTunes, ça fait toujours plaisir. À dans 15 jours, et merci de nous avoir écoutés jusque-là. Bye bye.